Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdioa pour l'interview émission que vous pouvez écouter sur le site internet www.rdwa.fr, émission mise en podcast, et aussi vous pouvez écouter cette émission grâce à l'émission FM sur 107.5. Aujourd'hui au studio, nous sommes avec Gilles Coulet, bonjour.
Bonjour.
Alors Gilles, vous êtes ici pour nous présenter un spectacle qui va se dérouler le mardi 8 au temple de Barnave et qui s'appelle Wakan, la terre dévorée. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement un peu ce qu'est ce spectacle?
Oui, ben, c'est un spectacle que j'ai de longue, très longue date dans la tête, enfin plus que dans la tête, hein, en moi. Et finalement, il est né. Et donc, c'est à partir d'un texte d'un Amérindien, du chef Saitl, qui écrit un discours qu'il a fait au président des États-Unis qui voulait lui acheter sa terre. Donc c'est un très très beau texte, très très actuel. Et pour vous donner une idée de quoi ça parle, le président des États-Unis donc lui demande d'acheter sa terre et lui il répond: mais comment pouvez-vous acheter ou vendre le ciel, la chaleur de la terre? L'idée nous paraît étrange. Si nous ne possédons pas la fraîcheur de l'air et le miroitement de l'eau, comment pouvez-vous les acheter? Enfin voilà, hein, c'est une toute petite partie comme ça. Donc c'est quelque chose qui m'a donné tout de suite la chair de poule, qui me parle énormément de part aussi ce que j'ai vécu dans la forêt. J'ai des parents qui étaient qui était beaucoup en camping sauvage, et donc ça, toutes ces choses que ce chef indien raconte me touchent profondément, quoi. J'ai pas fait un parcours intellectuel, ça m'a pas touché intellectuellement, mais plus dans ma peau, quoi. Voilà.
Wakan, la terre dévorée, pour vous, vous faites un parallèle avec le Diwa?
Ben oui, parce que en fait, quand même, il y a pas mal de choses qui se passent ici. Il y a pas mal de gens qui sont déjà des gens qui sont ici, qui sont près, qui ont des racines, qui sont près de la nature, et des gens qui arrivent et qui cherchent des racines et qui cherchent à retrouver ces choses-là. Donc, je trouve que ça tombe très très bien ce discours, ce spectacle. Qui est un spectacle de mouvement, hein, de danse. Je ne parle pas, enfin très rarement. Voilà.
Alors, vous disiez en ouverture donc, que c'est un spectacle qui était inspiré de paroles du chef amérindien Seattle. Mmh. Seattle était son nom, c'est ce nom qui a donné le nom de la ville aussi.
Oui, exactement, oui.
Et Seattle, si je crois bien, ça se situe au niveau de la côte ouest, oui, des
exactement.
États-Unis, hein, nord-ouest.
Mmh, exactement.
Une ville et plutôt une région actuellement plutôt défraîchie, je crois, non, économiquement.
Oui, bah oui, le pauvre Seattle, il n'a pas fini de se retourner dans sa tombe, bien entendu. Oui, oui.
Et donc, on peut situer son territoire à cet endroit.
Ben c'est le Dakota. Je saurais pas vraiment vous dire. J'ai énormément étudié, enfin lu de romans, enfin pas de romans, de textes écrits par des Indiens, enfin dictés par des Indiens. Mais à ce niveau-là, j'ai pas vraiment cherché. Ce qui m'intéresse surtout, c'est l'aspect universel. Le rapport des Indiens exterminés par les Américains, oui, mais ce qui m'intéresse, c'est cet aspect universel. Ça touche, ça nous touche, si on est très proche de ça. Ça touche les Amazoniens, ça touche les Unites, ça touche tout ça, ce discours, ce thème.
Alors, vous-même êtes danseur, je crois bien,
oui.
Et un peu comédien.
Voilà. Aussi comme est bien, oui.
Et vous exercez depuis combien de temps?
35, 36 ans à peu près, oui. Quelque chose comme ça, oui. Non, ça, j'ai fait déjà pas mal de routes.
Et vous avez participé avec des artistes de renom à des spectacles?
Bah, j'ai travaillé presque 20 ans en Italie. Et j'ai travaillé entre autres à la Scala à Milan. Donc là, j'étais mime à la Scala. Enfin, je suis encore mime à la Scala à Milan, mais enfin, je travaille plus, ça ne m'intéresse plus tellement. J'ai travaillé aussi avec Jérôme Savary, donc on a fait une grande tournée avec des Shakespeare, une tournée en Italie qui a duré un an, et on a repris le spectacle au Palais de Chaillot à Paris. Donc, et là-bas aussi, j'ai travaillé avec des grands metteurs en scène, mais bon, italiens, qui ne sont pas très très connus ici, où j'étais acteur et chorégraphe aussi. Mais c'est des très grosses productions avec 30 personnes en scène, voilà. Sinon, j'ai créé divers solos et j'ai plus l'habitude de travailler en solo, quoi. En solo, entre mes solos et des stages que je donne dans les écoles de danse, les écoles de théâtre, un peu partout, quoi. Voilà.
On va revenir à ce spectacle, mm-hmm. Wakan, la terre dévorée. Qu'est-ce qui vous a motivé pour monter ce spectacle, mis à part la teneur du texte? Est-ce que vous avez trouvé un parallèle avec votre existence ou votre vision de ce qui se passe autour de vous? Et quelles sont justement ces choses-là?
Oui, ça a été un peu le prétexte de... Bon, je voulais faire un nouveau spectacle, un nouveau solo. Et comme j'avais ça depuis très longtemps derrière la tête, là, enfin derrière le ventre, j'ose dire... J'ai commencé un peu à travailler là-dessus, à partir aussi de choses que j'ai lues sur les Amérindiens qui m'ont touché, mais je suis parti énormément sur l'improvisation. Par exemple, j'ai lu dans les mémoires de Géronimo, par exemple, il parle de la création du monde, qui avait le peuple de l'obscur et le peuple de la lumière. Peuple de l'obscur, c'est tout ce qui était dragon, araignée. Le peuple de la lumière, c'est tout ce qui était plume, avec le grand chef des plumes, c'est l'aigle. Et donc là-dessus, j'ai commencé à faire des improvisations sur une espèce de naissance. J'ai travaillé aussi beaucoup, je travaille beaucoup avec le son. La bande-son est faite pratiquement que de sons, des grillons, des crapauds, des locomotives aussi.
Que vous avez vous-même enregistré?
Il y en a que j'ai enregistré et d'autres que j'ai recherché dans des banques de sons, quoi. Donc oui, j'ai travaillé quand même sur 21 pistes. Il y a quelques petits morceaux qui sont des musiques amérindiennes. Mais sinon, en général, je travaille qu'avec des sons, quoi.
Et votre spectacle, donc, qui sera de danse, sera illustré avec des musiques de sons enregistrées. Mais au niveau musical, quelles sont les parties musicales qui seront entendues?
Les morceaux, je les ai pas en tête, mais c'est des morceaux de mais très très traditionnels indiens, où il y a les tambours et puis il y a la flûte. Et j'ai mis deux morceaux comme ça. Si à un moment il y a un chant d'un vieil indien, une voix très chose comme ça. Mais j'ai tenu à pas mettre trop, quoi, à laisser l'essentiel, quoi. L'essentiel.
Est-ce que vous-même êtes allé au-devant de ces populations qui existent encore aujourd'hui?
Aux États-Unis, j'y étais, mais il y a très longtemps. Je les ai rencontrés comme ça par hasard, mais enfin pas vraiment. Non, je peux pas dire que je les ai rencontrés, mais j'ai passé plusieurs étés en Haïti, par exemple, parce que un de mes profs est haïtien, et donc là en Haïti, j'ai passé pas mal de temps dans les vaudous. J'étais au Brésil aussi, dans les Macumba, dans toutes ces choses rituelles qui me parlent beaucoup. Parce que à travers ces rituels qui, quelque part, fonctionnent sur les étoiles, on retrouve des liaisons qui sont absolument incroyables. J'ai travaillé en Italie, par exemple, avec un groupe de tarantelles, de la danse tarantelle, de l'araignée, où moi j'interprétais l'araignée. Et on a trouvé des correspondances avec Haïti, où il y a une danse de l'araignée, qui correspondait totalement. Je travaillais avec un Napolitain aussi, où il y a un personnage du vaudou qui s'appelle Baron Samedi, une divinité d'en bas, et qui a des correspondances aussi incroyables avec le Pulcinello Nero, le Policinelle Noir de la Commedia dell'arte italienne. Donc ça m'intéresse beaucoup parce qu'on retrouve plein de liaisons comme ça dans tous les peuples du monde et dans notre vécu à nous, mais qui est très vieux parce qu'on a un peu perdu, quoi.
Vous parliez justement de tous ces peuples du monde. Vous les voyez dans une certaine unité, je dirais, puisqu'il y a une phrase qui est citée. Donc, la bête, l'arbre, l'homme, tous font partie de la même famille. Ouais. Est-ce que pour vous, c'est une évidence ?
Pour moi, c'est une évidence. Pour moi, c'est une évidence, oui. Que tout est relié. Tout est absolument relié. Et justement, c'est sage. Ont une parole qui est vraiment universelle et tellement appropriée à maintenant, quoi. Dans ce texte, par exemple, il dit par exemple nous sommes une partie de la terre et elle fait partie de nous. Si les hommes crachent sur le sol, ils crachent sur eux-mêmes. Et ça a des choses qui parlent, c'est ce qu'on voit en ce moment. Donc c'est un texte qui est tellement fort pour moi, et aussi parce que étant enfant, j'ai fait beaucoup de camping sauvage dans la forêt avec mes parents. On a passé énormément de temps, et quand le chef indien dit il n'y a pas d'endroit paisible dans les villes de l'homme blanc, nul endroit pour entendre les feuilles se froisser, se déplier au printemps. Moi, ça me touche parce que j'ai entendu les feuilles se dérouler au printemps. Je les ai entendues, moi. Donc ça veut dire que quand il y a des phrases comme ça de ce vieil indien, ça me touche profondément en moi, pas intellectuellement. Ça, je tiens à le dire, c'est pas un processus intellectuel que « Ah, c'est beau ce texte, je vais faire quelque chose ». C'est parce que ça me intérieurement, ça me fait vibrer, vraiment.
Un mode d'emploi pour la vie ?
Un mode d'emploi, non, mais ça, j'espère que bon, ça fait vibrer d'autres personnes, ça les interroge, ça leur dit, bah oui, peut-être que quelque part c'est quand même l'essentiel, qu'il y a les jeux vidéo, il y a la télé, il y a tout ça, il y a le smartphone, mais quand même, il y a des animaux, il y a des forêts, il y a des odeurs, c'est peut-être important. Et il me semble que dans le Diwa, il y a un peu beaucoup de gens qui cherchent un peu à retrouver un peu ça, quoi.
Actuellement, on peut parler de ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que la raison pourrait être plus forte que l'argent ?
Ben, on est mal barré. Mais il faut espérer. Mais quand même, je vois, bon, pour reparler du Diwa, je vois quand même, il y a des gens qui essayent de se réunir, de faire des coopératives, de faire des choses comme ça dans cette direction, en disant, bon, ça va, les politiques, les votes, les trucs comme ça, ça sert à rien. On va, nous, dans notre petit microcosmos, créer quelque chose. Mais bon, il y a de l'autre côté, dans la balance, il y a le président des États-Unis actuel qui pèse très très lourd. Mais ça n'empêche pas qu'on peut quand même, nous, dans notre petit quotidien, et ça, on a l'air de voir ça dans le Diwa, que ça commence à s'ouvrir, à grandir, quoi.
La sève qui coule dans les arbres. Chaque lambeau de brume dans les bois sombres, chaque clairière et chaque bourdonnement d'insectes est sacré dans le souvenir et l'expérience de mon peuple.
le sang des arbres transporte la mémoire de l'homme rouge.
On revient un peu sur le spectacle. Donc, c'est un. Que vous... Ça fait à peu près combien de temps que vous travaillez sur celui-ci ?
Alors, bon, l'idée, elle est partie dans les années 80. Mais j'ai commencé à y travailler il y a 6 ans, à peu près, sous forme de. Par épisode, comme ça, des improvisations dans divers endroits, divers thèmes. Et ensuite, bon, pendant 3 ans, là, j'ai travaillé beaucoup plus activement, quoi, régulièrement. Et ça a pris forme, là, il n'y a pas très très longtemps, il y a 2-3 mois. Donc là, j'en suis quand même à une vingtaine de filages. Donc j'ai fait déjà devant des amis, devant déjà un petit public. Je n'ai pas encore eu le temps de monter les lumières, parce que pour monter les lumières, bah, il faut avoir à disposition des lumières. Mais bon, il est là, quoi, il est en moi, là, c'est bon.
Alors, par rapport à ce spectacle, oui, vous avez eu des regards extérieurs pour vous guider dans cette représentation ?
Oui, tout à fait, tout à fait. Ben déjà, moi, depuis très très longtemps, je travaille avec la caméra. Donc ça, c'est important pour moi, parce que la caméra, quand on se regarde soi-même, on se juge très très sévèrement. Donc on ne laisse rien passer. Et j'ai une amie avec qui on fait un échange. Elle est danseuse, donc moi, je travaille avec elle. C'est comme regard extérieur, et elle travaille avec moi. Et là, c'est très très bien parce qu'elle a un très bon œil et ça correspond vraiment à moi, enfin à mon mode de travailler. Donc, il y a une très grande confiance dans le renvoi, quoi, dans le retour que je peux avoir.
Est-ce que vous souhaitez présenter ce spectacle peut-être un peu plus souvent au niveau du Diwa ?
Ben, j'aimerais bien, oui. Ce qu'il y a, moi, j'ai un gros défaut dans notre société actuelle, c'est que je ne sais pas me vendre et je ne sais pas aller trouver je ne sais pas quoi. Enfin, si, j'ai été trouver le théâtre de Die, mais on ne m'a jamais répondu. Donc, j'ai rappelé et on ne m'a jamais répondu. Donc, j'ai tendance à dire, bon, ben, bonjour. Voilà. Alors, on me dit, non, il faut insister. Mais moi, je n'insiste pas. Quoi. Je l'ai dit une fois, deux fois. Si on ne me répond pas, bon, ben, voilà. On n'aura pas l'occasion de se rencontrer.
Donc voilà, ce spectacle qui sera mis en lumière par Christophe Hardy. Donc, qui est Christophe Hardy ?
Christophe Hardy, il va faire les lumières. Enfin, les lumières, avec les moyens du bord, on va s'arranger à faire des petits effets comme ça. Mais on ne va pas faire une construction de lumière, quoi. Mais ça va être mieux que de le faire en pleine lumière, quoi.
Est-ce que ce spectacle sera joué donc au Temple de Barnave, un espace que vous considérez idéal pour vous ?
Bah, c'est intéressant, c'est un temple. La scène est en 2001, donc il y a 4 mètres de profondeur. Moi, j'en ai besoin de plus, plutôt de 6 ou 7 mètres, mais c'est intéressant. Ça m'oblige à travailler le mouvement un peu plus latéralement. Enfin, c'est ça. Comme le spectacle, maintenant, il est quand même en moi, je peux me permettre de le faire pas n'importe où. Il faut un minimum d'espace, mais ça, oui, ça m'intéresse de le faire là-bas. C'est très beau, c'est un très bel espace.
C'est un spectacle face à son public ou alors, comme certains autres spectacles, le public se trouve autour, en périphérie de l'artiste ?
Non, c'est un spectacle frontal. Frontal, parce qu'il y a des moments, il y a des formes, je travaille avec une veste à un moment, ça donne des espèces de minotaures, de totems, donc comme je suis derrière, c'est bien que ça soit frontal comme, comme regard.
C'est un peu un jeu d'ombre aussi ?
Excuse-moi ?
Est-ce qu'il y a un jeu d'ombre aussi ?
Bah, là, il va y avoir un jeu d'ombre, pas malgré moi, mais parce qu'on n'a pas des, on n'a pas des pendrillons. Donc, comme j'ai besoin de beaucoup de, enfin, des projecteurs de rasants pour donner du relief au corps, aux muscles, aux ombres, bah, comme y a, ça ne s'en va pas dans un pendrillon, bon, ça va se refléter sur le mur. Mais c'est intéressant, ça va donner d'autres effets un peu inattendus. Oui, je suis très content, c'est bien.
Alors, cette représentation durera environ 60 minutes et vous proposez à la suite un échange autour d'un verre et puis de moyens de vous parler aussi, d'échanger. Vous êtes, vous disiez que vos parents étaient, avaient vécu dans le Diwa.
Oui.
Et est-ce que vous avez ressenti, parce que vous n'étiez pas résident en permanent
non,
dans le Diwa,
non.
Mais est-ce que vous avez vu ce pays changer ou évoluer ?
Bah, dans le village où je suis, là, à Saint-Romain, oui. Enfin, moi, j'allais une semaine par an retrouver mes parents. Hein, donc, j'ai pas vraiment vécu là, mais oui, j'ai connu les gens, donc les gens du village, mais. Gens du village, bah, petit à petit, ils sont avec mes parents, quoi. Ils sont au cimetière. Mais ce que j'ai vu, oui, c'est petit à petit, il y a des jeunes qui arrivent avec des propositions très intéressantes de maisons d'hôtes, de travail artisanaux, de choses bio. Donc il y a toute une nouvelle population qui arrive. Et qui est assez bien inséré, quoi. Et je trouve que c'est très, très bien. Par exemple, au 14 juillet, il y a eu un repas. La mairie a organisé un repas pour le village. Et là, il y avait 70 personnes. C'était super bien. J'ai rencontré plein de gens de tout horizon, mais qui sont au village, ou qui sont au village pendant l'été, mais, ou qui ont leurs parents qui sont là, ou qui... Et ça, c'est magnifique, hein, c'est magnifique. Donc, il y a des très belles initiatives de la mairie, très, très ouvertes à toutes les initiatives, voilà.
Culturelles particulièrement. Et puis, je reviens sur ce spectacle, parce qu'on a omis quand même une chose importante, c'est que c'est un spectacle qui sera... qui s'adresse au public par des signes, par le langage des signes.
Mmh.
Alors, des signes issus de quel vocable ?
J'ai étudié le langage des signes amérindiens, donc avec des livres. Donc j'ai étudié les signes qui correspondaient à ce texte. Hein, j'ai pas étudié tout. Enfin, je suis pas capable de parler en langage des signes, mais je suis capable de dire le texte en langage des signes. Donc j'utilise le langage des signes des fois dans le silence, des fois à travers le texte qu'on entend off, que je dis avec ma voix, mais que j'ai fait off. Parce que je le dire comme ça de vive voix, je trouve que c'était pas très intéressant. C'est mieux d'avoir cette voix de ce chef qui parle là-haut. Et dans une partie du spectacle aussi, vers la fin, je donne les mots en rapport aux gestes. De façon à ce que les gens ont vu ces gestes durant le spectacle, en imaginant un peu peut-être que ça peut être. Mais à la fin, ils voient le geste et la parole qui est sur le geste. Pour en fait aussi comprendre. Et donc là, je fais un peu un condensé du texte entier, parce que le texte est divisé en quatre parties durant le spectacle, où je danse, où je fais diverses choses. Et donc à la fin, je fais un espèce de condensé en langage des signes de tout le texte, avec ma voix qui dit les mots que je dis avec le langage des signes. Voilà.
Et par rapport à ce texte, dont l'original contient, représente quoi au fond ?
J'ai coupé des parties. Hein, j'ai coupé toutes les parties qui étaient trop, enfin pour moi, trop le conflit entre les Amérindiens et les conquistadors, on va dire, pour rester sur un fond universel. Mais c'est absolument incroyable. Là, en 1883, ce monsieur dit ce texte, dit ces choses qui parlent, qui sont d'une actualité incroyable, incroyable, d'une sagesse. Dire attention, si vous faites ça, voilà, ce n'est pas. Nous ne sommes pas. Ce n'est pas l'homme qui a tissé la trame de la vie. Il en est seulement un fil. Tout ce que vous faites à la trame, vous le faites à vous-même. C'est pour moi, c'est incroyable. Ah oui, ce que je peux dire aussi, c'est que je travaille beaucoup avec ma voix durant le spectacle. Bon, des respirations, des choses. Et en voix off aussi, j'ai mis des voix, mais qui sont la mienne. Pour, par exemple, à un moment, il y a une voix qui arrive comme des ancêtres. Et donc là, je me suis inventé, parce que je travaille beaucoup avec la voix et le langage imaginaire. Donc là, j'ai fait un espèce de... Plutôt que d'aller chercher à trouver les mots en Dakota et dire les mots en Dakota, je trouve que c'était plus intéressant de rester sur mes sensations et de m'inventer, moi, un langage amérindien, quoi.
Voilà. Et vous veniez de dire quoi, là, justement ?
J'ai rien dit de spécial. Enfin, je veux dire,
c'était juste
C'est une improvisation.
D'accord.
C'est improvisation. J'imagine un ancêtre qui dit des choses au peuple. Attention, ce qu'on veut, attention, respecter notre terre. Et bon, moi, sur ce thème, voilà.
Et justement, la culture indienne se transmettait par l'oralité, je crois.
Mm-hmm, tout à fait, oui.
Comment avez-vous trouvé trace de ces textes ? Donc, comment existent-ils aujourd'hui ?
Il y a eu beaucoup d'interviews, hein, de chefs. Il y a beaucoup de livres qui sont parus sur des chefs indiens, ou des fils de chefs indiens, mais qui de sages, d'hommes médecine, on appelait, et qui ont continué qui ont eu ces pouvoirs, on peut dire, transmis, et qui ont commencé à faire des stages, à donner des stages en Europe pour faire comprendre comment ça fonctionne, les rituels, ces choses-là. Et donc, il y a beaucoup d'éléments. Donc, des gens qui n'étaient pas capables d'écrire ou tout ça, mais qui ont parlé. Il y a eu un traducteur, et puis ils ont mis ça sur des... Alors, bon, c'est très touchant à lire et tout ça, mais on est quand même loin de la réalité, parce que l'amérindien a un langage qui est complètement différent du nôtre. C'est-à-dire que lui, il n'est pas... il s'appuie pas sur le verbe, mais c'est plus l'adjectif ou le nom. Ça veut dire que nous, on va dire la rivière coule fortement. Eux, le fait de dire la rivière, ça signifie tout. Le fait de dire l'oiseau, l'aigle, ça suffit. Il faut pas rajouter des choses, d'écrire. Donc au niveau traduction, c'est sûr qu'on n'est pas... C'est pas facile, parce que c'est un autre mode de langage, complètement divers.
Alors, Seattle étant un de ces sages, vous en avez rencontré ou vous en avez découvert d'autres aussi
De textes.
De textes.
Ah oui, il y en a énormément de textes. Il y a des poèmes, il y a énormément de textes. Oui. Il y a beaucoup de choses écrites, beaucoup de... Oui, énormément de choses. Mais je voulais rester sur ce texte qui me parlait bien, parce que sinon, à la fin, bon, oui, il y a plein de choses, plein de phrases. Hein. On pourrait faire un spectacle seulement de paroles de plusieurs heures.
Après, pour vous voir sur Internet, est-ce que vous avez un blog ou un site ?
J'ai un site. Alors, c'est facile. Il y a deux moyens d'y arriver. Ou par mon nom, prénom. Donc, c'est www.gilescoulet. Donc, Gilles avec un S. Coulet, COULET.com. Ou sinon, le nom de ma compagnie. Enfin, ma compagnie, c'est moi. Hein. on s'entend bien. Et c'est Le Corps Sauvage. Donc là, on fait www.lecorpssauvage, tout attaché avec les deux S.com. Et donc là, on va sur le site et là... Il y a beaucoup de choses, quoi. Il y a des vidéos,
Et puis, nous invitons les auditeurs, s'ils désirent venir voir votre spectacle, de réserver, hein, si je crois bien.
Oui, c'est important parce que là, la salle, ils savent pas, ils ont besoin de savoir, il va y avoir 50, 100 personnes, donc d'organiser des bancs, des chaises, Et puis, ça va pas être très facile parce que comme je travaille aussi beaucoup à terre, donc il y a un problème de visibilité. Donc, c'est bien de savoir combien de gens. Donc, oui, c'est important de réserver. Hein.
Alors pour ça, il existe deux solutions. Il y a le mail, donc c'est christian.lecorvic avec un tiret entre les deux, lecorvic, et @wanadoo.fr ou alors au 04 75 21 31 09. Et le prix est entrée libre et participation, c'est à prix libre. C'est ça?
Voilà, et puis il y a un pot après qui permet, bon, on boit un coup, c'est gratuit. Et puis on va pouvoir discuter ensemble, enfin les gens qui, voilà, de échanger nos impressions, nos émotions surtout j'espère.
C'est la première fois que vous présentez ce spectacle?
Oui, c'est la première fois, je l'ai présenté, bon, dans un petit groupe, mais devant public, c'est la première fois. Je vais le jouer après en octobre à Paris. Donc là, dans un théâtre, et bon, là, avec les lumières, il va falloir construire la lumière, mais là, pour l'instant, c'est un premier jet, comme ça, avec un minimum de technique, avec les moyens du bord, quoi. Voilà.
Comment est la vie d'un artiste de spectacle vivant, aujourd'hui?
Ah ben, si on veut être riche, il faut changer de métier. Mais sinon, c'est passionnant. Enfin, c'est passionnant. Moi, j'ai commencé ma vie, enfin ma vie, non, faut pas exagérer, mais j'ai commencé. J'ai fait l'université après, mais au début j'ai fait un CAP de plombier, donc j'étais plombier. Et bon, mais c'était dans les années un peu chaudes, 68, tout ça, donc ça m'a beaucoup aidé à. Enfin, j'ai travaillé en entreprise pendant un an, et après j'ai pris ma guitare, j'étais à San Francisco, donc là ça a tout changé là. Et puis après, je suis rentré à l'université de Vincennes en philosophie, mais parallèlement, je faisais le plombier, aussi le maître nageur, oui, parce que oui, j'ai changé de métier entre-temps, je fais des compétitions de natation, donc j'ai fait, voilà. Et puis petit à petit, j'ai rencontré la danse, toutes ces choses-là, et donc là, j'ai fait ça, pas 24 heures sur 24, mais pratiquement, quoi. Donc, après, je suis parti en Italie. Et là, oui, je suis arrivé quand même à vivre avec ça, à travers des stages, beaucoup, beaucoup de stages. Je donnais beaucoup de stages dans les écoles de danse, de théâtre, et en faisant aussi mon spectacle un peu partout en Italie, un peu partout, quoi.
Vous donnez donc, vous formez donc des jeunes artistes. Est-ce que vous sentez un renouveau parmi la jeunesse artistique ou une motivation?
Bah, il y a quand même une grande volonté de découvrir, d'apprendre, de perfectionner. Par exemple, je donne à Paris des cours AFDAS, c'est réservé aux intermittents du spectacle. Donc c'est des gens qui sont en spectacle, des gens qui vont sur scène, mais qui, pour se recycler, qui viennent faire des stages. Et quand même, quand je donne un stage, c'est un stage qui dure un mois et c'est 7 heures par jour. Quand même, on a le temps d'approfondir les choses. Très souvent des comédiens qui ont qui sentent le besoin de retourner au corps. Et mon discours est un travail de comédien quand même, que la parole, elle a une préexistence, donc elle vient du corps. Donc comment faire que, quand j'ouvre ma bouche, ça frissonne sous mes doigts de pied d'abord. Voilà.
Eh bien voilà, et donc je rappelle aux auditeurs mardi 8 août à 21h.
21h.
Au temple de Barnave, donc pour voir Wakan, la terre dévorée. Eh bien Gilles, merci d'être venu nous voir.
Merci à vous.
Et puis vous êtes là pour un petit moment encore?
Oui, oui, je vais faire un spectacle en Bretagne le 15 septembre, donc je pars le 10 à peu près, donc je suis là.
Eh bien en tout cas, bon séjour et puis je vous dis merde.
Merci bien à vous.
Allez, au revoir.